9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, c'est le docteur Réginald Delouche qui est avec nous aujourd'hui, médecin, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et vous avez écrit, docteur Alouche, la méthode hépato-détox mincir durablement et sans danger. Et on va citer votre éditeur qui devient milliardaire grâce à vous, c'est Albin Michel. Bon, on va parler du jeûne aujourd'hui. Le jeûne, m'avez-vous dit, est une chance pour l'organisme, docteur Alouche. Pourquoi ?
Bah oui, parce que le jeûne, alors il y a plusieurs types de jeûne, mais en général, le jeûne est une chance pour l'organisme parce que, en fait, avant le néolithique, lorsque nous étions dans les cavernes, on oscillait, on alternait entre des périodes de jeûne et des périodes d'abondance. Mmh. Et en fait, notre organisme a été sélectionné pendant des siècles sur notre capacité justement à jeûner un certain temps et ensuite à manger, parce que ça dépendait de la chasse, et que la chasse n'était pas, on ne pouvait pas chasser de façon permanente, parce que c'était dangereux de chasser.
On ne pouvait pas garantir un approvisionnement quotidien.
Voilà, dont notre organisme a été doté d'une capacité à stocker. Le problème aujourd'hui, c'est que nous stockons essentiellement plus que nous déstockons. Et vous savez, l'organisme et la nature ne fait pas les choses pour rien. Mmh. Si vous avez perdu l'habitude de déstocker, eh ben à ce moment-là, vous perdez cette aptitude, c'est-à-dire que c'est moins facile de déstocker. Et donc, jeûner de temps en temps, ça permet justement de se réapproprier ces compétences de l'organisme qui sont très très anciennes, hein, qui sont vraiment, qui sont presque l'essence de notre organisme.
Hein. On peut dire d'une certaine façon que l'organisme se met au ralenti et vit sur ses réserves.
Non, il fait plus que ça.
Il fait plus que ça.
Il faut pas croire. Le jeûne,
il tape,
ça n'est
il va,
pas.
Il va pas taper dans ses.
Le jeûne est actif. Ça n'est pas passif. Au contraire, il se passe beaucoup de choses parce que l'organisme, qui n'est pas encombré par les apports qui viennent de l'alimentation, va en profiter pour se nettoyer, pour se réorganiser. La flore bactérienne que nous hébergeons, vous savez que nous avons 10 fois plus de germes dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Elles aussi, ces bactéries, qui nous sont très profitables, parce que c'est grâce à elles que nous absorbons des vitamines, que nous faisons de la sérotonine pour ne pas être déprimés, et ainsi de suite. Elles vont, elles aussi, se nettoyer, se restructurer, se régénérer. Et donc, en fait, il y a tout un travail de nettoyage de printemps, si j'ose dire, quand on jeûne. Et c'est ça qui est bon dans le jeûne. Seulement, il ne faut pas non plus avoir des à-coups dans le jeûne. C'est-à-dire, jeûner l'abondance, mais... Faire attention à quel type d'abondance.
Voilà. Ce qui peut parfois se passer pendant le mois de Ramadan.
De Ramadan, c'est pour ça qu'il faut être raisonnable le soir lorsqu'on on va casser le jeûne. Il faut utiliser des aliments qui sont des aliments qui ne vont pas mettre un gros coup au foie, au rein, au cœur.
Voilà. Dans un jeûne comme celui du mois de Ramadan, donc où les gens s'abstiennent de manger et de boire pendant la journée, mm-hmm. est-ce qu'on arrive à ce fameux état de cétose ou pas, ou c'est trop court pour arriver en cétose?
Vous savez, souvent les gens pendant le mois de Ramadan disent j'ai mal à la tête. Alors c'est surtout au début en fait que les maux de tête se surviennent pour deux raisons. La première, c'est que souvent on boit beaucoup de café, on s'en rend pas compte, mais on boit 1, 2, 3 cafés, 4 cafés par jour. Et donc la caféine, on est accro à la caféine. Et donc quand on n'a pas de caféine, on fait un syndrome de manque et on a mal au crâne. C'est pour ça que pour bien préparer les périodes de jeûne, il est bon de diminuer sa consommation de café et de thé, parce qu'il y a aussi de la théine dans le thé.
Ouais.
Voilà, pour éviter justement, il y en a aussi dans les boissons gazeuses, hein, comme dans le coca, il y a beaucoup de caféine. Donc en fait, il faut se préparer, diminuer un petit peu ça pour pas avoir cet à-coup. Il y a un deuxième à-coup pour les migraines. Il s'agit de ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire quand vous allez être à jeun, l'organisme, le foie particulièrement, vous savez que j'aime beaucoup parler du foie, le foie, cet organe central, va faire du sucre à partir des graisses, à partir des protéines. Et quand il fait ça, eh bien, il va faire des corps cétoniques. Et les corps cétoniques, au tout début, ont un très fort tropisme pour le cerveau et ils vont donner des migraines et des maux de tête. Alors, bien entendu, il s'agit de maux de tête, pas de la vraie migraine. Vous savez, pour les vrais migraineux, ça peut être compliqué parce que ça s'ajoute à leur syndrome de migraine.
D'ailleurs, c'est très insupportable pour eux. D'ailleurs,
c'est très, très difficile.
Les débuts de mois de Ramadan.
C'est très dur. Donc, il faut passer 2-3 jours. C'est les 2-3 premiers jours qui sont compliqués. Puis après, on trouve un équilibre. Ce qu'il faut aussi, c'est bien s'hydrater entre les deux repas principaux, c'est-à-dire le soir et le matin, parce que cette hydratation va permettre justement à votre organisme, parce que vous comprenez bien, c'est assez simple à comprendre. Si vous avez de l'eau intracellulaire, inter et extracellulaire, vous allez pouvoir vous drainer en fait toutes ces toxines. Si il y a peu d'hydratation, à ce moment-là, il peut y avoir des souffrances d'organes. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, quand on a une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale particulièrement, ou une insuffisance hépatique, il faut demander l'avis de son médecin avant de se lancer
dans le jeûne. Il peut être déconseillé de jeûner.
Ça peut être surtout pour les insuffisants rénaux.
Dans ces cas-là. Que devient le cycle de l'insuline pendant une journée de jeûne? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pendant le mois de Ramadan, par exemple, on produit moins d'insuline que le reste de l'année?
Dans la journée, si vous n'avez pas d'apport alimentaire et particulièrement pas d'apport de sucre, hein, glucidique, eh bien, vous avez moins de sécrétion d'insuline. Donc, vous allez avoir tendance à moins stocker. Parce que je rappelle que l'insuline fait deux choses. Elle fait rentrer le sucre dans les cellules, donc pour nourrir vos cellules. Et deuxièmement, c'est comme une clé. Hein. Vous vous souvenez d'un petit peu, vous avalez un peu de sucre ou quelque chose qui contient du sucre. À ce moment-là, l'insuline va être sécrétée par le pancréas. Qu'est-ce qu'elle fait, l'insuline? Elle va dans le sang et elle va ouvrir les clés, les portes, les portes des cellules pour faire entrer le sucre. Voilà. Et à ce moment-là, la cellule est alimentée, que ce soit celle du cerveau, des muscles, ainsi de suite. Maintenant, elle a une deuxième fonction fondamentale, c'est que c'est elle qui gère le stockage des sucres non utilisés dans les cellules spécialisées qui sont les adipocytes. Et donc, cette fonction est importante. Donc, quand vous jeûnez, il y a beaucoup moins de sécrétion d'insuline. Mais tout dépendra de ce que vous mangerez au moment où vous reprendrez une alimentation le soir. C'est pour ça qu'il faut éviter les à-coups. C'est-à-dire qu'il faut éviter de prendre des produits qui ont un impact sur l'insuline très fort. Et on en a discuté ici souvent avec vous dans le cadre de cette émission. Moi, je suis un farouche militant. Je sais que c'est très controversé, mais je suis un farouche militant des produits à index glycémique bas ou moyen. Et je pense qu'il est intéressant, pendant ce mois, d'utiliser des produits à index glycémique bas ou moyen pour éviter les à-coups et avoir trop d'insuline. Voilà. Hein, parce que trop d'insuline, ça veut dire stocker. Donc,
subitement, vous relancez là, vous reboostez là.
Exactement.
C'est comme une boîte de vitesse, voilà. Finalement.
Ouais. Votre foie qui a été tranquille pendant plus de 14 heures, à un moment, pouf, il va se retrouver avec une grosse charge. Et donc là, il faut. Il faut profiter de ce mois pour justement retrouver une forme de calme alimentaire. C'est-à-dire bien mâcher, se concentrer sur ce qu'on mange, parce qu'en fait, il y a aussi l'importance de manger. C'est bien de manger. Ça veut dire qu'on a de quoi manger.
Et donc, on parle de manger en pleine conscience
exactement,
aujourd'hui.
Exactement, en pleine conscience, de prendre son temps, de bien mâcher, de boire, de ne pas utiliser d'aliments trop salés, parce que vous savez très bien que si vous utilisez, alors il y a deux écoles hein, pour ça. Il y a des gens qui disent le soir, il faut manger très salé, comme ça on garde l'eau, et puis le lendemain. Moi, je suis beaucoup plus circonspect.
Ce qu'on dit sur les eaux, faut prendre des eaux salées parce que justement, l'organisme le garde plus.
Voilà. Ouais. Moi, je vais vous dire, je pense qu'on peut utiliser des eaux salées, mais ce qui est important, c'est d'être parcimonieux en tout et d'éviter d'avoir trop de sel parce que trop de sel, ça va donner soif. Et si vous avez soif, à ce moment-là, c'est plus compliqué.
Oui. On verra tout à l'heure, le sel a un impact sur les index glycémiques, d'ailleurs.
Oui, exactement.
Contrairement à ce qu'on... Voilà, c'est pas du sucre, mais ça modifie aussi les index.
Le sucre et le sel, c'est les deux S. Hein, c'est les deux S avec lesquels, qui sont nos amis, mais il faut, comme tous les amis, il faut leur donner des limites. Il faut pas qu'ils rentrent trop.
Avec parcimonie et bon escient, comme
exactement,
les autres.
Exactement.
Alors, quels sont les risques chez les diabétiques dont le diabète est déséquilibré? Oui. Ils risquent quoi? L'hyperglycémie ou l'hypoglycémie s'ils se mettent à jeûner?
Alors, s'ils se mettent à jeûner, ils risquent plutôt, bien entendu, l'hypoglycémie. Alors, attendez, vous savez qu'il y a deux diabètes. Il y a le diabète de type 1, qui est un diabète, qui est une maladie qui se déclenche avant 25 ans, qui est une maladie auto-immune. Ce sont des enfants ou des adolescents qui font une infection quelconque et puis qui vont faire des anticorps contre leur propre pancréas. Je vous rappelez de cette anecdote. Par exemple, on s'est aperçu qu'en Australie, ils ont vacciné les enfants contre un virus, un rotavirus, qui donne des diarrhées, des bébés. Et ils ont diminué de 15% le nombre de diabètes de type 1. Parce qu'en fait, il semblerait que ces virus ont la même signature antigénique que les cellules du pancréas. Donc l'organisme faisant des anticorps contre ce virus, détruit aussi les cellules du pancréas. C'est quand même incroyable. Je pense qu'il y a une vraie piste sur les virus. Vous l'avez compris, en ces temps de Covid, on a compris qu'il fallait aujourd'hui qu'on fasse beaucoup de recherches sur les virus, parce que ce sont à la fois nos amis. Il faut savoir que ce sont nos amis, puisque peu de gens savent ça, mais pour l'accouchement, par exemple, de la nuit des temps, on a intégré un virus, un paléovirus, qui permet de faciliter la délivrance. Donc l'homme, en fait, est un symbiome, c'est-à-dire qu'il utilise des bouts, il utilise la flore bactérienne. Un jour, il a découvert que en ayant des germes dans son intestin, eh bien, on pouvait mieux vivre, être plus heureux, puisque c'est 80% de la sérotonine, c'est-à-dire l'hormone du bonheur, est faite par la flore bactérienne. Et donc, voilà, donc je reviens au diabète, parce que là, je m'égare un peu. Pour le diabète
mais
de type 1...
C'est intéressant.
Donc, c'est une maladie.
On a reconnecté notre ventre avec notre tête.
Voilà, eh bien, oui, il faut toujours. C'est la tête, le cœur et le ventre. Voilà. Ça, c'est les trois axes. Si vous ne connectez pas la tête, le cœur et le ventre, ça va pas. S'il y en a un qui va pas, ça va pas. Et s'il y en a deux qui vont pas, là, il faut vraiment s'inquiéter. Donc, pour revenir au diabète de type 1, c'est 10% des diabètes, en gros. Et le diabète de type 1, vous avez besoin de faire de l'insuline. Et donc, quand vous faites de l'insuline qui va baisser le taux de sucre dans le sang, il faut manger. Donc là, il y a un vrai débat pour les diabétiques de type 1. Est-ce qu'ils peuvent ou pas effectuer ce jeûne? Je ne sais pas. Il faut vraiment demander à leur médecin et qu'ils prennent leur décision en conscience, en pleine conscience. Mais le diabète type 1, c'est compliqué quand même. C'est beau, mais c'est compliqué. Voilà. Le diabète de type 2, c'est 90% des diabètes. Et ce diabète, en fait, s'il est équilibré, on peut jeûner. Parce qu'il est équilibré. Mais pour être équilibré, ça veut dire qu'on prend ses médicaments, qu'on suit, qu'on a une bonne hygiène de vie.
Qu'on sait qu'on est diabétique, puisqu'on a déjà vu dans cette émission qu'une grande majorité des diabétiques s'ignorent.
Voilà. Donc il faut profiter de ce mois pour faire le point et pour se préparer. Mmh. Ça se prépare. Hein. Ça ne se subit pas, ça se prépare. Et donc quand on le prépare, eh ben, à ce moment-là, les choses peuvent aller très bien et ça ne pose pas de problème du tout. Voilà.
Mmh. Et s'il est déséquilibré, donc, et ou qu'on a un diabète qui s'ignore, qu'est-ce qui se passe si on se met à jeûner?
On peut avoir des hypoglycémies. Donc, les hypoglycémies, c'est dangereux. Parce que si on conduit, on peut tomber dans les pommes et pendant qu'on conduit, c'est évident, on peut avoir un accident. Mmh. Et donc, c'est sueur froide, une certaine angoisse. Hein. Il y a toujours une angoisse, sueur froide, parfois des palpitations. Puis on sent que ses jambes dérobent si on est debout. Voilà, ainsi de suite. Ça, c'est les signes de l'hypoglycémie qui sont résolus par le simple fait de manger quelque chose de sucré ou un petit gâteau sec, un petit beurre. Voilà, à ce moment-là, tout va, ça revient tout de suite. C'est incroyable, c'est miraculeux pour tous ceux qui connaissent, qui ont connu ce type de malaise. Vous donnez ça à quelqu'un, un petit peu, même très très peu d'eau sucrée. Enfin, attention à l'eau parce qu'il peut y avoir des fausses routes. Hein, si vraiment il y a une perte de connaissance, donc il faut toujours avoir quelque chose quand on est diabétique comme ça et qu'on fait le jeûne. Il faut mieux avoir quand même quelque chose sur soi pour éviter un malaise.
Au cas de l'hypo.
Voilà, exactement.
Et l'hyperglycémie, donc, c'est l'inverse.
Alors, l'hyperglycémie, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement chez les diabétiques de type 2 ce qu'on appelle des comas hyperosmolaires, c'est-à-dire qu'il y a plus assez d'insuline, ils ont trop mangé la veille, et à ce moment-là, il y a une hyperglycémie, et cette hyperglycémie, elle peut effectivement mener à des grands malaises. Et là, en général, c'est aux urgences, et puis on donne l'insuline nécessaire, mais il faut être dans un environnement hospitalier. Hein. Donc voilà. Donc il faut être à son écoute. Je pense que quand je dis ça se prépare, ça ne se subit pas et on s'écoute. Hein. Il faut être bienveillant envers soi et donc comprendre ce qui se passe. Et voilà. En général, ça se passe bien. Hein. Il faut dire que dans 99%,
avec on parle toujours des cas.
Tout se passe très bien, je crois.
Mais même les diabétiques qui jeûnent sérieusement et qui font pas d'excès, c'est même très bon pour eux.
Exactement, parce que quand on jeûne, eh bien, il y a des mécanismes qui se mettent en place, des mécanismes qui sont bons pour la santé. On a tous entendu parler de ce prix Nobel en 2016 sur l'autophagie. C'est le japonais.
Le japonais, oui.
Voilà. Qui a montré qu'il y avait des phénomènes, des processus naturels d'autophagie. Autophagie, ça veut dire phagie, ça veut dire manger. Auto, ça veut dire se manger. C'est-à-dire qu'en fait, les cellules qui vont pas bien, les cellules qui sont un peu hein, ont la capacité, en fait, de se détruire et puis de donner des nutriments, de faire que les toxines partent et que de donner des nutriments aux autres. Et pour prioriser, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que même dans les grandes périodes de jeûne prolongé, de jeûne ou uniquement hydrique, hein, on s'est aperçu que, par exemple, les gens qui font de la grève de la faim, on sait quand ils ont été examinés, on s'est aperçu que les fonctions cardiaques, rénales et hépatiques étaient maintenues. C'est-à-dire qu'en fait, l'autophagie va agir sur des cellules dont on n'a pas vraiment un besoin immédiat. Et donc, l'organisme va se régénérer ainsi, va se détoxifier. On sait aussi que sur le jeûne prolongé, on peut avoir aussi une augmentation de l'hormone de croissance, par exemple, qui va faire que... Pourquoi ? Parce qu'on se prépare à la guerre quand on jeûne. Pourquoi ? On jeûne. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller trouver à manger. Pour trouver à manger, il faut que l'organisme soit prêt à courir, à aller chercher, à avoir l'œil beaucoup plus perçant.
L'œil du tigre.
Donc en fait, le jeûne, c'est pour ça qu'il faut le vivre avec force, parce que on va acquérir des choses qu'on n'a pas dans la vie quotidienne, où les choses se passent bien, on mange à sa faim, et ou parfois on mange même sans faim. On va même redécouvrir ce sentiment qu'on oublie souvent après l'âge de 14-15 ans. Vous savez, jusqu'à 14 ans, au goûter, on a faim, mais on crève de faim. C'est une sensation que vous et moi, Philippe, nous n'avons plus, parce qu'on mange socialement. C'est-à-dire qu'on a des horaires, assez...
Oui.
Voilà, et on mange parce que...
On ressent plus vraiment la réalité, la sensation.
Ouais. Donc les jeunes, ça permet justement de retrouver la sensation de faim, de se retrouver soi-même, en fait, hein, par les sentiments. Donc c'est pour ça qu'il faut être à une bonne écoute de soi. Il ne faut pas subir, il faut au contraire s'écouter, se préparer et écouter. Parce qu'il y a des choses à entendre dans le jeûne.
Alors on verra avec le docteur Réginald Allouche dans un instant comment utiliser les index glycémiques,
oui,
justement pendant ce mois de Ramadan pour composer une assiette équilibrée et profiter, oui, de ce mois de...
Le matin surtout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui swappent le matin, et je pense qu'il ne faut pas le swapper le matin.
Swapper. Et on verra tout à l'heure exactement ce que veut dire le mot swapper. 01 53 48 3000, si vous voulez poser vos questions au docteur Allouche, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Docteur Réginald Allouche est avec nous ce matin, médecin et ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Vous avez écrit la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. C'est vrai que beaucoup essayent et profitent du mois de Ramadan pour réorganiser la façon dont ils mangent. Oui. Et ceux qui font attention se demandent comment bien manger. Oui. Et donc vous nous parliez des index glycémiques, oui, docteur Allouche. En quoi ça consiste, les index glycémiques ?
Alors, les index glycémiques, c'est un calcul, c'est une table qui permet, une table de chiffres, qui permet de savoir quel est l'impact d'un sucre sur la sécrétion d'insuline. On l'a dit tout à l'heure, à chaque fois que vous ingérez un sucre, à ce moment-là, il passe dans l'estomac, il va passer dans le sang, et dès qu'il passe dans le sang, le pancréas, qui est la glande endocrine, va faire de l'insuline. L'insuline, deux missions. La première, faire rentrer ce sucre dans les cellules pour les nourrir, hein, parce que la nourriture d'une cellule, c'est le glucose. Hein. C'est donc, et ce glucose va permettre à la cellule de faire l'ATP. L'ATP, c'est-à-dire l'énergie, puisque tout ça, en fait, se transforme en énergie. Le glucose en soi, c'est pas vraiment le carburant. Le carburant d'une cellule, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Bon, on va pas rentrer dans le détail.
D'accord. Et là, on est face à un organisme qui n'a pas eu de glucose pendant 17 heures,
voilà,
à peu près.
Donc, ce qu'il faut éviter, c'est lui faire un gros à-coup. Pourquoi ? Parce que si on prend beaucoup de sucre d'un coup, à ce moment-là, il y a beaucoup d'insuline d'un coup, et à ce moment-là, il va y avoir peut-être même une hypoglycémie réactionnelle. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on fait un gros pic de glycémie, il y a plus d'insuline, et à ce moment-là, on peut avoir une petite hypoglycémie 20 minutes ou 30 minutes après. Qui n'a pas ressenti, après un gros repas, la faim ? En se disant, mais je comprends pas, je viens de manger et j'ai faim. Tout simplement parce que c'est mécanique, faut juste attendre, boire un petit verre d'eau et attendre. Surtout ne pas remanger parce qu'on va recommencer le cycle. Justement. Donc ça, les index glycémiques, ça mesure l'impact sur l'augmentation de la glycémie. Donc vous avez une table qui est de 0 à 100. À 100, on a mis le sucre pur. Voilà, c'est très simple. Et puis, on va analyser tous les produits qui ont du sucre. Alors. Par exemple,
ça ne concerne que
les produits sucrés. Alors, bien entendu, plus le produit sucré est riche en fibres, moins son index glycémique va être élevé. Je prends un exemple. La différence entre melon et pastèque. La pastèque a un index glycémique assez élevé. Pourquoi ? Parce que c'est très juteux, une pastèque. Et donc, il y a moins de fibres. Le melon, lui, il a un index glycémique plus bas. Pourquoi ? Parce que c'est très dense. Donc, quand vous allez l'avaler, il va falloir le découper. Ça prend du temps. Donc le sucre va rentrer plus lentement dans le sang. Mais bien entendu, pour être extrêmement scientifique, il ne faut pas parler d'index. Il faut parler. Alors, l'index, c'est bien, on a un chiffre, donc on peut comparer. Mais il faut parler de charge. Parce que vous comprenez bien que si vous mangez un petit bout de pastèque et trois melons, eh ben, à ce moment-là, vous aurez plus de sucre que si vous avez mangé.
Ça s'ajoute.
Voilà, c'est la charge, en fait, la charge glycémique pour les puristes qui veulent savoir, c'est l'index glycémique multiplié par la quantité. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt parler de la charge glycémique d'un repas complet que d'un élément. Vous comprenez ? Si, par exemple, vous prenez des produits qui ont beaucoup de fibres avec des produits sucrés, les fibres vont compliquer l'absorption de ce sucre. Et donc, l'index glycémique va baisser. D'accord ? Et paradoxalement, la datte, par exemple, ce fruit qui est très sucré, hein, puisqu'il contient beaucoup de fructose, eh bien, au fond, il a un avantage aussi, c'est qu'il a beaucoup de fibres. Il y a beaucoup de fibres dans la datte. C'est un
fruit. D'ailleurs, on le sent quand on le mange.
Exactement, c'est très fibreux, ouais, hein, ouais. Sur la fin. Mmh. Donc, on a avalé la partie sucrée. Après, il y a toujours la fibre qu'il faut qu'on mâche un peu, ainsi de suite. Donc, c'est plutôt, paradoxalement, alors que ça a une image de fruit très sucré, très calorique, au fond, la datte, elle a suffisamment de fibres pour aider, justement, le repas à avoir une charge glycémique plutôt bonne. Par contre, bien entendu, il va falloir éviter tout ce qui est féculent trop cuit, par exemple. Vous savez, par exemple, que si vous prenez la table des index glycémiques de 0 à 100, eh bien, les pâtes al dente, c'est 45-50, et les pâtes trop cuites, c'est 80. C'est comme si c'était du sucre pur. Voilà. Donc, le riz, c'est la même chose. Donc, il faut pas trop cuire, parce que quand vous cuisez, c'est très facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un féculent ? Un féculent, c'est de l'amidon. L'amidon, qu'est-ce que c'est ? C'est plusieurs millions de glucose attachés avec des liaisons. Si vous le cuisez trop, vous coupez artificiellement les liens entre le glucose, vous avalez du glucose pur. Voilà. Si vous le cuisez pas trop, à ce moment-là, c'est votre organisme qui va faire le travail et ça va rentrer tout doucement dans votre organisme et il n'y aura pas de pic d'insuline. C'est pour ça que...
Pour la semoule, par exemple, qui est pas mal consommée pendant le mois de Ramadan,
la semoule,
c'est la même chose ou...
Alors, la semoule, d'abord, il faut qu'elle soit légère. Il faut qu'elle soit trop chargée d'huile. Parce que souvent, quand on fait le couscous, particulièrement, on peut avoir la main lourde sur l'huile parce que c'est plus facile après, puis ça donne beaucoup de goût. Le gras, c'est le goût. Hein, parce que tous les arômes se dissolvent dans le gras, pas dans l'eau. D'accord, c'est pour ça que quand on met du gras, les choses ont beaucoup plus de goût. Mais on augmente la charge alimentaire parce que vous savez que les lipides ce sont les derniers à sortir de l'estomac. Parfois, ça sort 3-4 heures après le repas. C'est pour ça qu'il faut pas trop charger en graisse parce que si on arrive le soir, qu'on mange vers 21 heures et qu'en fait les lipides vont commencer à être digérés vers minuit, c'est compliqué pour l'organisme, ça lui fait beaucoup de travail et un sommeil un peu complexe. C'est pour ça qu'il faut profiter justement pour faire des choses un peu légères, prendre, comme vous le dites très bien, la table d'index glycémique et choisir tout ce qui est en dessous de 55. Alors des tables d'index, il y en a partout,
Voilà, vous privilégiez les aliments, oui. Voilà, en dessous de 55,
en dessous de 55,
ce qu'on appelle les index glycémiques bas
ou moyen. Alors maintenant, il faut jamais dire jamais, hein. On peut avoir un soir, prendre quelque chose, c'est pas très grave, c'est pas très important, puisque votre organisme, lui, il est dans un système où on l'a ralenti un petit peu, donc il peut accepter ça. Mais en général, il faut un, favoriser les index glycémiques bas ou moyens. Deux, il faut privilégier il faut diminuer un peu la charge de produits lipidiques, de graisse, et favoriser les graisses insaturées type oméga 3. Les types oméga 3, c'est l'huile de colza, par exemple. Quand on fait la salade, par exemple, tomate concombre le soir, c'est très bien parce que c'est plein d'eau. Donc on va pouvoir avoir l'eau et puis on met une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de colza. Pourquoi ? Parce que l'huile d'olive, elle est riche en oméga 9, qui est un acide gras monoinsaturé et qui est extrêmement bon pour la santé. Bon pour la santé si on n'en met pas 4 cuillères. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est quand même des lipides. Et l'huile de colza qui est très riche en oméga 3. Comme l'huile de noix, mais l'huile de noix a un goût un peu fort, souvent, hein. L'huile de colza a moins de goût. Et là, on faut favoriser les oméga 3. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en période de jeûne et qu'on se détoxifie, la richesse en oméga 3 des repas permet justement d'aider à neutraliser les antioxydants.
D'accord.
Et sont anti-inflammatoires pour le foie. Parce que le foie, il fait un boulot de dingue, hein, pendant le jeûne. Hein. Il fait beaucoup de travail. Hein. Parce que regardez, vous savez maintenant, puisque vous suivez nos émissions, vous savez que le foie se régénère à partir de minuit, 1h du matin. D'accord ? On l'a laissé en paix. Donc, vous comprenez bien l'importance du repas du soir, de pas trop charger le foie. S'il y a trop de fructose, s'il y a trop de graisse et qu'il travaille toute la nuit, il pourra pas bien se régénérer. Et le lendemain, il faut qu'il fournisse. C'est lui qui fournit le sucre. Je vous rappelle que celui qui régule la glycémie, c'est le foie. Donc, c'est lui qui va libérer le glycogène.
La dose pour la journée.
Qui va faire aussi le sucre à partir des graisses et des protéines, parce que comme vous êtes en période de jeûne, il va falloir quand même alimenter le cerveau en sucre. Vous voyez, donc il faut être gentil avec soi. Voilà, faut être gentil avec soi, donc pas trop chargé. On peut une soirée, on reçoit des amis, voilà. Enfin, en ce moment, c'est compliqué, hein. C'est une période vraiment très compliquée, mais enfin, on peut recevoir dans la jauge de 6, on peut recevoir des amis, et à ce moment-là, on peut en profiter. Mais il faut une certaine rigueur, une certaine assaise, parce que sinon, votre organisme, il sera pas très très content. Voilà.
Comment on calcule, docteur Alouche, l'index glycémique d'une soupe, par exemple, d'une harira ou d'une shorba? Comment on fait pour savoir à peu près?
Il faut connaître les ingrédients. Est-ce qu'il y a des vermicelles, pas de vermicelles? Est-ce qu'on met un peu de pommes de terre, pas de pommes de terre? Est-ce que ça dépend des... Il y a aussi des traditions. En fonction des...
Après, chacun sa soupe. Hein.
Voilà, exactement.
Mais ça veut dire quoi? Comment on fait? Comment on ajoute les aliments?
C'est-à-dire qu'en gros, on sait que dans une soupe, il y a beaucoup d'eau. C'est sa grande vertu, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Faut pas trop la saler. Et puis il y a des...
Mais il y a les sels minéraux qui remontent naturellement.
Exactement. Mais ce sont des sels minéraux. Ce n'est pas du chlorure de sodium. Hein, d'accord, c'est il y a beaucoup de sels minéraux, effectivement, il y a du potassium dans les légumes, et donc vous allez, c'est en gros pour l'index glycémique, c'est est-ce que vous mettez ou pas des féculents dedans. Voilà,
c'est ça qui va changer la donne, qui va faire qu'on passe de modéré
Exactement. Donc si vous mettez, n'ayez pas la main trop lourde sur les féculents. Vous pouvez mettre un peu de vermicelle parce que c'est traditionnel dans certaines familles, mais vous en mettez un peu.
Pois chiches, c'est quelle famille?
Pois chiches, ce sont les légumineuses.
D'accord.
Alors on va vous a...
Non mais on va fèves, reprendre. Pois chiches parce
alors,
que
ouais. Fèves, pois chiches, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, ce sont des légumineuses. Pain, pâtes, riz et pommes de terre, ce sont les féculents. Le petit poète entre les deux. Et donc, je suis désolé, c'est toujours un peu plus compliqué que ça en a l'air. Et en fait, quelle est la différence entre les légumineuses et les féculents? Elle est fondamentale, c'est le type d'amidon qui n'est pas le même. Alors ça, c'est dans les amidons, il y a deux types d'amidon. Donc l'amidon, c'est des chaînes de millions de glucose attachées. Hein. En fait, d'où vient l'amidon? Ce sont les réserves des végétaux. Hein. Les végétaux réservent leur sucre, donc leur vie, en faisant des stocks de sucre, hein, avec la photosynthèse et avec ce qu'ils pompent de la terre. Donc il y a deux amidons. Il y a l'amylose et l'amylopectine. Voilà. Et donc, quand on est riche, alors l'amylose, vous vous souvenez, c'est quelque chose qui est en cercle comme ça. Imaginez un espèce de lasso avec en infini avec des glucoses tout autour. Quand vous avalez ça, il faut couper le lasso pour prendre le glucose. L'amylopectine, c'est comme un arbre, comme un cerisier, puis il y a les cerises qui pendent. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller prendre ce truc. Donc, ce qui est riche en amylopectine, qu'est-ce qu'il y a à 90% à de l'amylopectine? La pomme de terre. Voilà, donc c'est plus facile. Et la pomme de terre, ça a été fait justement pour nourrir les peuples pendant des années. Hein, parce que vous vous souvenez que c'était les guerres napoléoniennes.
Oui, et puis il y avait les émeutes de la faim.
Exactement. Donc l'amidon, la légumineuse, en gros, donc je répète, pois chiches, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, petit pois, je sais pas où on le met, fèves, ce sont des aliments qui ont, en gros, 50-50, amylose, amylopectine.
D'accord.
Les
et
féculents.
Bon dans la soupe.
Très bon dans la soupe.
Bon index glycémique.
Bon index glycémique. En plus, les légumineuses ont des fibres. Et ces fibres sont un vrai trésor pour votre flore bactérienne intestinale. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez les féculents qui sont beaucoup plus riches en amylopectine.
Voilà. C'est donc, ça la différence. Et qui ont donc des index glycémiques
plus élevés, en sachant que la cuisson change tout. C'est-à-dire que si vous cuisez trop, eh bien, à ce moment-là, vous aurez un index glycémique élevé. Mais il y a ce qu'on appelle la rétrogradation de l'amidon. Alors, si vous êtes assis, je vais vous l'expliquer.
Non, toi, après la pub.
Voilà.
On parlera d'amidon. On continue à composer les repas de mois de Ramadan, parce que ça, c'est important. Oui. On s'intéressera au repas du matin avant la reprise du jeûne, hein, le sort avec vous.
D'accord.
Parce que ça, c'est important aussi de bien maîtriser les index glycémiques pour les composer. Oui. Et si vous avez des questions à poser au docteur Alouche, c'est très simple. Vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors c'est un outil que vous apprenez à maîtriser, hein, les index glycémiques, justement pour composer vos repas pendant le mois de Ramadan. Le temps pour manger est moins important que d'habitude, hein, puisque vous faites deux repas avec des nuits qui sont beaucoup plus courtes. L'ennemi, c'est le pain.
Bah, l'ennemi, enfin, j'oserais dire que l'ennemi, c'est un peu le féculent trop cuit. Voilà. Voilà, ça, c'est clair. C'est le féculent trop cuit parce que s'il est trop cuit, il a un index glycémique très élevé. Et comme il a un index glycémique très élevé, il va faire des pics d'insuline, donc des fringales. Et ce qu'il faut absolument éviter pendant tout ce mois, c'est d'avoir des fringales. Hein. En plus, je rappelle qu'on ne boit pas. Et que ne pas boire, c'est très très difficile. Hein. C'est-à-dire que tous les gens qui vous disent le mois de Ramadan n'est pas un mois de jeûne intermittent. Hein. Je sais qu'il est très à la mode.
Oui,
hein.
Parce que c'est très à la mode, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Ouais. Attendez, faut remettre les choses dans leur contexte. Le jeûne intermittent, on boit. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le jeûne de Ramadan est plus difficile, hein, il faut le savoir. Donc il faut le préparer et ne pas le subir. Pour le préparer, il faut que le repas du matin... Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui évitent qui sautent le repas du matin, et je le déconseille. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On boit un café. Le café, c'est un puissant diurétique. Donc l'eau qu'on a accumulée dans la nuit, justement pour préparer son jeûne du jour, on va l'uriner. Donc c'est un peu dommage. Donc il faut bien s'hydrater le matin. On peut prendre un café si on prend le reste. Manger un peu de protéines, hein, ça peut être des œufs ou du fromage, ça va faire plaisir à notre confrère.
Au docteur de labo.
Voilà.
Sauf que le docteur de labo, il va vous dire qu'il faut manger 200 grammes. Donc
oui,
peut-être que vous n'irez pas au-delà.
Non, j'irai pas autant, on peut manger du fromage le matin avant de partir. On peut manger aussi un peu de viande ou des œufs. On peut, voilà, et puis manger sa tartine de pain avec son beurre, et peut-être éviter un peu la confiture pour pas trop charger en sucre. Voilà, pour rester sur du salé et boire. Parce qu'à ce moment-là, avec en général le salé, il y a un peu de sel, par définition, hein, les protéines dans les œufs et dans les quand on mange des œufs. Hein. Et donc, on va garder son eau. Vous savez qu'une molécule de sel, deux molécules d'eau attachées. Hein. On ne traverse jamais le désert sans sel. Parce qu'on ne peut pas garder son eau, on va suer et on va perdre toute son eau par évaporation. Donc là, on est dans une période où il n'y a pas trop de soleil, pas trop de chaleur, donc ça va être plus facile. Mais en tout cas, le matin, voilà, je recommande la boisson chaude. Pas trop caféiné, on met un peu moins de café qu'avant, si on fait un Mélita. Ensuite, on peut avoir sa tartine de pain avec le beurre, hein, parce que le beurre, c'est des acides gras saturés peut-être, mais il y a aussi des vitamines importantes, mais pas trop, faut pas en mettre un steak dessus. On peut manger un peu de fromage ou un peu de protéines, hein, on peut manger des protéines comme de la viande ou tout ce qui peut, ça peut être un peu de truc de la veille. Voilà, et puis boire abondamment, et à ce moment-là, on est prêt. Ça peut être rapide. Ce qu'il faut, c'est préparer. Vous savez, c'est une question d'organisation et de logistique. Voilà. Il faut la logistique, il faut qu'il y ait tout à la maison, il faut être organisé, il faut se préparer. Voilà. Et quand on est prêt, on peut passer une journée sans boire, sans manger, et le soir, on peut prendre une ou trois dates, hein, ça dépend. Il y a d'autres personnes qui prennent soit un simple verre de lait ou un verre d'eau. Et puis, ce qu'il faut éviter, c'est la trop grosse charge en sucre. Parce que je sais que les pâtisseries, parfois... Alors, les pâtisseries, c'est du sirop de sucre avec du sucre. Voilà. Donc, il faut être raisonnable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un jour avec, et puis trois jours sans. Puis un jour avec, puis trois jours sans. Hein. On n'est pas obligé tout le temps de changer.
La pastèque est souvent très présente. Sur les tables du Ramadan, bon là c'est pas trop l'été, mais c'est quand même très chargé en index glycémique. Donc
général on n'en mange pas énormément, on peut manger une petite tranche. Et l'avantage de la pastèque, c'est qu'elle hydrate beaucoup. Il y a beaucoup d'eau dans la pastèque. Donc au repas, ça va pas modifier complètement. Rappelez-vous, je vous ai dit l'index glycémique de l'ensemble du repas, d'accord?
Charge glycémique
de l'ensemble du repas. Donc il faut faire en sorte d'en manger suffisamment pour bien s'hydrater. D'ailleurs, on a la sensation d'hydratation.
Ah oui, c'est tout de suite, c'est immédiat.
Immédiat. Ouais. Donc, quand on a mangé son petit quart sur une tranche ou une demi-tranche, eh ben à ce moment-là, tout va bien, on s'est hydraté. Alors, je recommande aussi une chose, c'est d'aller faire un petit tour dehors. Alors, je sais que c'est compliqué en ce moment parce que, personne n'ira vous embêter si vous faites le tour du pâté de maison, parce que ça permet aussi de mieux digérer. Ça permet aussi de respirer un petit peu. Profitez-en pour faire des mouvements. Alors, je vous donne un petit truc qui est incroyable, parce que quand on me l'a dit, j'ai pas cru. Il y a une équipe de Strasbourg, de l'INSERM, je crois, ou du CNRS, qui a démontré, publié dans Nature, donc on peut rien dire, hein, Nature, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la publication médicale, qui a montré que le triceps, celui-là,
Là, vous êtes en train de le montrer à la caméra, mais à la radio, vous êtes derrière votre bras.
Derrière votre bras, celui-là. Eh bien, il a une particularité, il ne consomme que du sucre, pas de graisse. C'est-à-dire, quand on fait des efforts, il est... Et donc, on s'est aperçu qu'il améliore les fonctions pancréatiques.
Donc, vous êtes en train de dire que si on fait travailler ses triceps...
Oui. On fait des mouvements de résistance. Parce que souvent, on fait, donc on peut faire par exemple les mouvements où on prend.
Donc là, c'est pour le biceps.
Voilà, le biceps. Mm. Et puis le triceps, c'est les fameux dips. Vous savez, quand on se met. Alors c'est compliqué à la radio, hein, mais on se met sur des barres parallèles ou quelque chose, et puis on se soulève comme ça, tout doucement. On peut même se faire aider. Il y a des machines où il y a des contrepoids.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà, on peut faire du gainage aussi. Il faut en profiter justement pour se dire. J'ai mangé, je laisse passer une petite heure, parce que je suis en pleine digestion. Quand on est en pleine digestion, vous savez qu'on élève la température de son abdomen, et donc on consomme à la digestion quasiment 10% des calories qu'on a absorbées pour digérer. Et puis on peut faire quelques petits mouvements. On achète des petits poids de 500 grammes, et on fait des mouvements de résistance avec justement ses triceps. Ça, c'est une recommandation
là,
que je donne.
Il va y avoir un maximum d'auditeurs avec des triceps en fin de ramadan.
Ah, super.
On va dire c'est le docteur Alouche qui l'a dit.
Superbe. Non, mais
ils auront travaillé triceps.
C'est cette équipe de... Moi, franchement, quand on m'a parlé de cette histoire, je me suis dit arrêtez quoi. Arrêtez avec vos trucs exotiques. Pas du tout. C'est extrêmement sérieux. Chaque muscle, il semblerait que les muscles ont tous génétiquement et sécrètent ce qu'on appelle des myokines, c'est-à-dire des hormones particulières en fonction de chaque muscle. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on apprend des trucs qui sont extraordinaires. On a un corps qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut le respecter. D'accord ? Il faut l'écouter. Il faut être gentil avec lui. Parce que c'est un capital extraordinaire.
Docteur Alouche, la question que tout le monde se pose à 9h49, et merci d'y répondre si vous avez une réponse à cette question, c'est est-ce qu'on peut manger du mesfouf le matin au sahour ? Non, mais moi je pense que c'est important et tout le monde se la pose. Et est-ce qu'on doit ?
Alors ça c'est une remarque off. Donc Philippe, Alors le mesfouf, c'est moi j'adore le mesfouf parce que ma grand-mère Anna en faisait et j'adore ça. Et vous venez de m'apprendre qu'en fait on peut en trouver et voilà.
Pour ceux qui ne connaissent pas, sur les tables du Ramadan, il y a du mesfouf.
Voilà, le mesfouf c'est de la graine de couscous avec des dattes, des noix, un peu de pistache. C'est parfumé, c'est superbe. Et ça on peut en prendre le matin. Mmh. C'est très bien parce que qu'est-ce qu'il y a dans le mesfouf ? Vous avez des sucres complexes, de la semoule, donc pas trop grasse. Légère.
Pas trop mouillé en huile.
Vous avez des dattes, vous avez des noix qui sont des oméga 3. Voilà, vous mangez ça avec et c'est parfait aussi. Il faut un peu plus de protéines quand même.
Oui, voilà, ça manque
le matin, ça manque un peu de protéines. Mais moi, c'est ma madeleine, c'est la madeleine de Proust. Moi, elle s'appelle le mesfouf.
Et au moins, c'est prêt. Quoi.
Ouais, voilà, exactement.
C'est prêt le matin, c'est pratique.
C'est superbe.
La soupe le matin, bonne ou mauvaise idée ?
C'est une très bonne idée, ça hydrate. Pas trop salé, parce qu'après on va avoir soif. D'accord ? Donc si vous aimez le salé, c'est plutôt la veille.
Voilà. Bon, sans transition aucune, tout le monde est en train de bruisser ce matin après l'interdiction des vols en provenance du Brésil sur ce fameux variant brésilien qu'on appelle P1, P2, enfin il y en a plusieurs, des variants. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce variant ? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ? Et est-ce que les vaccins aujourd'hui qui sont administrés aux Français sont en mesure de prévenir contre ces variants ?
Alors, premièrement, bonne réaction du gouvernement, c'est de fermer les vols venant du Brésil. Et obliger les gens à aller en quarantaine si c'est obligatoire. C'est vrai en Asie, si vous allez aujourd'hui à Hong Kong ou en Chine, vous passez 12 jours dans un hôtel à vos frais, je rappelle, quand même, faut le dire. Donc c'est normal, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête, cette histoire. Donc il faut arrêter le Brésil, et puis ça ne va pas durer. J'espère que ça ne durera pas, qu'il y aura une réaction du gouvernement brésilien là-dessus. Deuxièmement, ce qu'on dit, ce qu'on sait, c'est que les vaccins, aujourd'hui, sont actifs, un peu moins actifs, 60 ou 70% sur ce variant brésilien. Donc, impératif ne pas le faire entrer. Deuxièmement, vous êtes protégé en partie. Et puis, encore une fois, le Covid n'est pas une maladie mortelle. Elle est mortelle dans certains cas, lorsqu'on a des comorbidités, lorsqu'on est fragile, lorsqu'on a d'autres maladies. Et puis après, bien entendu, il y a le fait d'avoir une protection immunitaire basse. C'est pour ça qu'il faut, pour éviter ça, prendre de la vitamine D, prendre du zinc, bien manger, faire de l'exercice, parce que je rappelle que lorsqu'on fait de l'exercice, on fait marcher son système lymphatique, que le système lymphatique est débit dépendant, c'est-à-dire que plus le système lymphatique, il ne marche que si on fait de la musculation, hein, ou du sport, ou de la marche, hein. Et donc, système lymphatique, il y a des lymphocytes, cytos, les cellules, lymphe, de la lymphe. Voilà. Donc, c'est les cellules qui vont vous protéger,
hein. Bon, bougez.
Profitez aussi, le soir, après avoir mangé, une heure et demie après, allez faire une petite marche, faites des petits mouvements, que ce soit, dans votre tête, que ce soit, vraiment inscrit, parce que c'est comme ça qu'on tient bon et qu'on fait un bon jeûne, quoi. Un jeûne profitable.
Ouais. Donc, ça, c'est important. Profitez-en.
Oui.
Faites travailler vos triceps. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir de l'émission.
Non, pas ça.
Aussi d'aujourd'hui, vous aurez des gros bras à la fin.
Non, c'est pas ça. Il faut le faire en s'écoutant, en se préparant, en se respectant. Parce que c'est quand même... Le jeûne, c'est aussi l'école du respect. Hein. Voilà. De soi et des autres.
Comment on fait pour supprimer le pain le soir de l'étape de Ramadan?
C'est très, très difficile, le pain. Ça, c'est vraiment...
Je me suis battu hier. J'ai essayé de supprimer le pain.
C'est très, très dur.
C'est difficile. Hein.
Ouais. C'est très dur parce que c'est presque un réflexe, le pain. Hein. C'est un féculent réflexe. Et donc, on se retrouve à manger du pain, parfois, j'exagère un peu, manger du pain avec du pain. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est quoi le pain? C'est de l'amidon, c'est du sucre. Parce qu'on a habitué, on nous a habitués, je crois qu'on nous avait, on est tous pareils, hein. On nous a habitués à manger, à tout manger avec ce féculent, avec, voilà. Donc, moi, ma recommandation, c'est d'en manger le matin. Et c'est tout. Il faut aussi savoir que le pain, comme le fromage, est la plus grosse source de chlorure de sodium, de sel, dans votre alimentation. Et que ça, pour les gens qui sont hypertendus, qui ont des problèmes rénaux, ça peut être compliqué. Donc, essayez de manger le pain le matin, parce que tout ce qui est mangé le matin sera brûlé, tout ce qui est mangé le soir sera stocké. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre. Manger le pain le matin pour pas dire jamais. Parce que dire jamais, on sait très bien comment on se comporte. C'est comme les gens qui disent le chocolat jamais plus. C'est pas vrai. Parce que dans le chocolat, vous avez des alcaloïdes. Des alcaloïdes qui donnent une accoutumance. On est dépendant au chocolat. Il y a des gens qui peuvent, la nuit, il leur faut leur carré de chocolat, quoi. Voilà. Donc, par exemple, moi, je pousse beaucoup à utiliser le cacao en poudre. Pur. Parce que dans le cacao, vous avez les alcaloïdes, mais vous n'avez pas ni le sucre, ni le gras.
Qui est beaucoup plus amer.
C'est très amer, mais si vous mettez ça dans un yaourt, ou dans un peu de... vous mélangez avec du lait fermenté, ou des choses comme ça, c'est très très bon.
Docteur Alouche, alors vous réécoutez cette émission en podcast sur beurrefm.net. Vous avez la vidéo sur la chaîne YouTube de beurrefm. Vous pouvez commenter, poser vos questions au docteur Alouche. Merci d'avoir été avec nous,
merci
docteur.
Merci de m'avoir invité.
Et passez une très très belle journée de Ramadan à l'écoute des programmes de beurrefm.
Je vous remercie.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.